L'œil politique passe à la loupe les grandes questions actuelles. Témoignages, opinions, analyses. L'équipe vous retrouve le premier lundi du mois, de 19h à 20h, pour penser les enjeux politiques qui agitent la société. L'œil politique, c'est tout de suite sur Prune, 92 FM et prune.net.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'œil politique sur Prune 92 FM, votre émission politique tous les premiers lundis du mois de 19h à 20h. Ah, qu'il a été beau ce mois de novembre, vous ne trouvez pas ? Au milieu de tous ces débats moroses et grisants, un grand homme a enfin fait son retour au premier plan. Depuis le temps qu'on l'attendait, le Messie pointe le bout de son nez. L'homme providentiel refait surface. Le sauveur du pays nous vient en aide. Laissez-moi le présenter à la manière d'un boxeur. Né le 19 juin 52 à Talensac, fils d'ancien résistant proche de Pierre Mendès France, il ouvre en 1980 une clinique de chirurgie esthétique spécialisée dans l'implant capillaire. Grand amateur de cigares, il pratique le cyclisme, le ski, le golf et la boxe. Il collectionne les montres. Élu conseiller général du Lot-et-Garonne en 1998, maire de Villeneuve-sur-Lot en 2001, député français de 1997 à 2012, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale de 2010 à 2012, ministre délégué au budget entre 2012 et 2013. Il disait n'avoir jamais fraudé. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jérôme Cahuzac. C'est le seul homme qui fait l'unanimité en France. Bon, certes, c'est contre lui, mais quand même, il peut unir la France. Il a lancé une cagnotte pour 2027. On peut mettre le lien dans la description du podcast de l'émission. Ce serait bête de louper une occasion aussi importante de sauver le pays. Bref, trêve de Jérôme Cahuzac. Laissez-moi vous présenter l'équipe du soir. À mes côtés se trouvent Gabi et Seb, et à la réalisation, Yelena. Bonsoir à vous trois, comment allez-vous ?
Hello,
bonsoir.
Salut, ça va ? Un petit coup de chaud là avec ton intro, Quentin. J'étais sur le bouton, sur le fader là.
Je t'avais prévenu avant l'émission.
Ouais. Mais attends, par contre, il a vraiment lancé une cagnotte pour 2027 ?
Oui, en fait, Backseat, l'émission Backseat sur Twitch avait cramé 2 semaines avant qu'il fasse son retour en politique, qu'il allait faire son retour parce que Adèle, j'ai oublié son nom, la vie d'Adèle, la chronique La vie d'Adèle, avait remarqué qu'une cagnotte avait été lancée pour Jérôme Cahuzac. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont grillé 2 semaines avant qu'il allait faire son retour en politique. Et non, deux semaines après, il était sur France Inter dans la matinale. Voilà.
Ah, mais il y a des gens qui ont de rien.
Ouais, c'est clair. Au programme du soir, éducation nationale, des phrases de rappeurs ou encore l'extrême droite qui plonge le pays dans la violence. Je voudrais d'ailleurs, avant de commencer l'émission, apporter mon soutien aux camarades de l'Union Pirate et de Solidaires qui ont été attaqués par l'extrême droite à la sortie du tram il y a une semaine et demie lors des élections syndicales universitaires. Le membre de l'Union Pirate en question a également été victime de cyberharcèlement et de propos racistes lancés par l'UNI. Visiblement, ces derniers sont plus courageux quand il s'agit d'attaquer lâchement des syndicats opposés que de venir débattre en face à face avec eux. C'est sûr, c'est plus facile d'insulter derrière son cavier que de débattre argument contre argument quand on n'en a pas. Nous devons rester solidaires face au fascisme et aux fascistes. Le combat va être long, mais nous devons de le gagner. Je crois d'ailleurs que c'est le thème de ta chronique, Gabi. Je vais donc m'arrêter là.
En effet, oui.
Et pour commencer l'émission, je propose un tour de table de l'actu de novembre. Quelles actus vous a marqué, chers amis, en ce mois passé ? Qui veut se lancer ? Très bien.
J'aime bien, ça se gâte et tout, là, tranquille. Personne n'a envie de se lancer.
Non, mais t'es sur une belle lancée.
On te laisse démarrer.
Ah, vas-y, Quentin.
Non, bah, moi,
à toi l'honneur.
C'était un peu ça, mon actu. Mais du coup, vu que tu vas en reparler dans ta chronique... J'ai peur de trop en dire, mais les violences d'extrême droite qui refont surface depuis maintenant plusieurs mois, mais on les voit vraiment depuis l'attaque de le maire de Thomas, notamment. Et les manifestations à Crépol, les manifestations nazies. C'est un petit peu inquiétant, mais visiblement, le gouvernement continue de préférer à condamner la gauche que l'extrême droite.
Oui, on est les seuls à s'inquiéter, visiblement, donc tout va bien.
Hein. Oui.
Oui, c'est que ça ne doit pas être si grave. Il y a d'autres sujets qui tracassent, hein, notamment à Nantes, on en parlait juste avant l'émission, les décorations de Noël qui créent polémique. Nous avons une fresque d'une mère Noël en jogging. Où vont les fêtes chrétiennes ?
C'est ça. On rappelle quand même que le sapin de Noël était une tradition païenne, notamment condamnée par le pape dans les années 50. Donc c'est assez drôle de voir que maintenant les catholiques, ceux qui défendent les traditions, défendent à fond le sapin de Noël, le Père Noël, etc., qui ne sont absolument pas des... Enfin, c'est pas du tout la tradition. Bref, ils connaissent même pas leur propre histoire. C'est un peu désolant.
Une autre idée ? J'aime bien parce que moi je dis ça, j'ai une autre idée, tu sais, pour me dédouaner de l'actu. Moi personnellement, j'ai eu un peu du mal à suivre l'actu là, ce mois de novembre. Je trouvais que c'était très très dur. Du coup, j'avoue que je me suis un peu déconnectée. Mais la loi asile immigration, je pense que c'est quand même dans l'actu. Enfin, ouais, bah, c'est dégueulasse quoi. J'ai pas d'autre chose à dire. Ça va pas être très nuancé, mais justement, on manque beaucoup de nuances dans ce genre de débat. Et aussi le fait d'entendre énormément, j'ai l'impression que tous les 4 matins, tout le temps, dès que j'allume la radio ou la télé, je vois des fachos quoi. Ce soit le RN, vraiment c'est des discours, ça plombe quoi.
Ce qui est assez symptomatique avec la loi asile-immigration, c'est que c'est dans la continuité de ce que fait... que fait la Macronie, aussi bien dans le fond que dans la forme, puisque encore une fois c'est passé avec c'est passé au forceps avec des 49.3 à tour de bras, comme le budget, comme tout ça, et on a depuis quelques années déjà, mais depuis quelques mois ça s'est intensifié. On a une démocratie qui est plus que malade, qui donne des airs de phase terminale, et c'est un peu effrayant.
Gabi président.
Oh non.
Non, c'est vrai que tu disais que l'actu c'était un peu compliqué à suivre. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait c'est toujours la même chose. C'est toujours CNews et Hanouna qui balancent les polémiques, c'est eux qui font le débat. C'est toujours, on tape toujours sur les mêmes. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Et c'est vrai que c'est un peu fatigant. Et on a un peu du mal à voir, je trouve, la lumière au bout du tunnel.
Ouais, puis même en ce qui concerne l'actu internationale, avec la guerre qui se passe actuellement entre Israël et Palestine, je trouve que ça manque clairement de nuances, en fait. C'est pas joyeux, mais c'est un euphémisme. Mais je trouve que ça manque de nuances. Mais bon, de toute façon, c'est un peu... j'ai l'impression que ça fait depuis des années... on manque de nuances, que ce soit dans les débats politiques, etc. Et ça me refait penser sur la loi des immigrations. J'avais une vidéo d'Usul, justement, sur l'émission sur France 2 qui a eu lieu il y a quelques semaines.
C'est la grande émission politique le jeudi, j'ai oublié son nom.
Ouais, je ne me rappelle plus.
C'est avec ce soir, avec Karim Issoul.
Non, c'est l'émission avec Caroline Roux sur France 2.
Ouais. Ah oui,
oui. Bah,
l'événement.
D'événements, ouais. Et justement, il montrait en fait comment une chaîne de services publics. Ouais, merci Seb. Seb me montre parce que c'est un petit peu trop fort. Désolé les auditeurs et les auditrices. Ils montraient que même sur une chaîne de service public, en fait, on avait des propos vachement problématiques en fait sur la question de l'immigration et que en fait, on avait un point de vue qui était quand même d'extrême droite, quoi.
Et puis c'était clairement déséquilibré comme plateau.
Oui, c'était déséquilibré. Oui, c'est ça. En fait, il y avait que François Ruffin qui était de gauche. Étiqueté à gauche.
Et Nicolas Meyer-Rossignol aussi du Parti Socialiste. Enfin, ouais. Officiellement, c'est la gauche.
Voilà, mais sinon, en fait, c'était Marion Maréchal-Le Pen.
D'ailleurs, Marion Maréchal-Le Pen, ils ont décommandé. Comment elle s'appelle, celle d'Europe Écologie des Verts ?
Marine Tondelier.
Ils ont décommandé Marine Tondelier le matin ou la veille pour laisser la place à Marion Maréchal-Le Pen qui n'a aucun mandat politique et qui n'a aucune force politique, entre guillemets. Donc ça montre bien à qui on donne et à qui on veut donner la parole.
Marion Maréchal-Le Pen, qui était sur le marché de Noël de Nantes la semaine dernière pour dénoncer les lumières de Noël à Nantes, comme ça, la boucle est bouclée.
Et qui sont très jolies, ces lumières.
Et qui sont très jolies, suis complètement d'accord. Eh bien, merci à vous trois pour ce débrief. On enchaîne tout de suite par une pause musicale. On écoute Well Free de Sama. C'était Walfrid de Sama dans l'œil politique sur Prune 92 FM tous les premiers lundis du mois. Et visiblement, ça en a réveillé plus d'un dans le studio. Ou plus d'une en l'occurrence. Manque de moyens, réforme catastrophique, morale en berne. Malheureusement, l'éducation nationale vit une période difficile depuis plusieurs années. Le mois dernier, nous avons enregistré une interview de Clément Brochard du syndicat Sud Éducation. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Et désolé d'avance pour celles et ceux qui n'aiment pas ma voix, vous allez encore m'entendre sur cette interview. Bonne écoute.
C'est l'heure de l'interview. Place à nos invités pour analyser la question politique de l'émission.
Clément Brochard, vous êtes co-secrétaire de Sud Éducation 44 et professeur de CM1. Mercredi 20 septembre dernier, les syndicats claquaient la porte d'une salle de l'Assemblée nationale suite à une audition parlementaire pour le moins houleuse. Les syndicats dénonçaient la situation inquiétante de l'éducation en France avant d'être rattrapés et réprimandés par les députés Renaissance et Rassemblement National. Alors Clément Brochard, les liens sont-ils définitivement rompus avec le gouvernement actuel? Et si oui, pourquoi?
Bonsoir, merci pour votre invitation. En fait, on a en face de nous un gouvernement qui ne comprendra a priori que le rapport de force. Un gouvernement avec lequel on ne peut pas négocier si on n'arrête pas de travailler ou si on ne fait pas massivement grève. Ça fait longtemps qu'on l'a compris, nous, de notre côté, à Sud Éducation, parce que c'est un gouvernement qui use et abuse de slogans, de langage de communicant, mais quand on gratte un petit peu sous le vernis, on se rend compte que bah, la réalité n'est absolument pas à hauteur de ce qui est proposé, et ça sur différents sujets.
Comme je disais, donc, l'audition était sur la rentrée 2023. Quel bilan peut-on tirer de cette rentrée ?
Eh ben, c'est dans la droite lignée de ce qui se passe depuis maintenant plusieurs décennies en France, c'est-à-dire que l'école va très mal, comme l'hôpital public va très mal, comme les crèches vont très mal, et ça a été largement médiatisé dernièrement, mais c'est très très important que nous, on puisse continuer à alerter là-dessus. L'école va mal parce que de moins en moins de personnes veulent exercer le métier d'enseignant et d'enseignante, et on les comprend au regard de la dégradation de nos conditions de travail. L'école va mal parce qu'on fait partie des professeurs en Europe qui sont les moins bien payés, et aussi on fait partie des professeurs qui ont le plus d'élèves par classe en moyenne.
Est-ce que l'état de l'éducation nationale se dégrade particulièrement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, ou c'est plus global sur le long terme ?
Alors, c'est un processus qui existe depuis longtemps, qu'Emmanuel Macron est en train de poursuivre, et peut-être même un petit peu en l'accélérant. Ce qui est assez prégnant sous le mandat d'Emmanuel Macron, c'est la question de l'école inclusive, qui est la question de l'inclusion des élèves handicapés. Et ça a été vendu comme un grand enjeu de son premier quinquennat, puis du second. Et en fait, on se rend compte là encore que c'est un slogan. Et il y a de plus en plus d'enfants handicapés qui n'ont malheureusement pas la place qui devrait être la leur à l'école.
Justement, à titre d'exemple, à la rentrée dans le Calvados, 18 élèves sourds ont été privés d'accompagnement spécialisé à la rentrée. Les dispositifs permettaient aux élèves, donc c'était un codeur, de retranscrire en direct toutes les interventions des enseignants pour les élèves déficients auditifs. Mais faute de budget, le dispositif a été supprimé. Comment on peut, en 2023, faire avec des budgets toujours plus réduits, mais tout en répondant à cet enjeu d'inclusivité pour les élèves en situation de handicap ?
Eh ben, en fait, on n'y répond pas, quoi. C'est-à-dire que là, on est les représentants d'une institution qui est maltraitante. On ne peut pas dire, comme ça, médiatiquement, on va être à la hauteur pour tous les enfants qui ont des besoins, des singularités, et ne pas mettre l'argent, en fait. Et tant qu'il n'y aura pas un investissement massif dans l'éducation nationale, on ne pourra pas les accueillir convenablement, ces enfants-là, alors qu'on devrait le faire, on le crie haut et fort. Mais aujourd'hui, par exemple, les personnes qui les encadrent, qu'on appelle des accompagnements d'élèves en situation de handicap, c'est des personnes qui n'ont pas de statut de la fonction publique, c'est des personnes qui sont payées en moyenne 800 euros par mois. Donc évidemment, tant qu'on maintiendra de la précarité pour ces personnels-là, on n'y arrivera pas.
J'ai vu toujours sur les AESH, donc les assistants d'élèves en situation de handicap, dénoncent également la création d'un poste d'accompagnement à la réussite. Et elle s'y oppose. Qu'est-ce que ce poste, et pourquoi s'opposer à sa création ?
Oui, c'est la création, oui, d'accord, des ARE. Bah, bien sûr, c'est dénoncé parce que, en fait, plutôt que régler le problème de la précarité des AESH et des AED, en créant des statuts de la fonction publique, en les rémunérant correctement, on va simplement fusionner leur mission, on va créer des contours encore un peu plus flous, et ça va en rien aider les élèves, ça va encore une fois même certainement dégrader leur accompagnement.
Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a émis l'idée de mettre en place des groupes de niveau au collège pour le français et les mathématiques, en lieu et place des classes que nous connaissons actuellement. Quelle est la position de votre syndicat sur ce sujet ?
Bah là encore une fois, on ne s'attaque pas du tout à des problèmes structurels, c'est-à-dire que la stratégie du gouvernement à chaque fois, c'est de donner des réponses pédagogiques. C'est la carte joker, hein. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils vont mieux nous former ou nous donner des approches pédagogiques pour ne pas avoir à investir, hein. Ça ne coûte pas très cher de miser là-dessus. Et là, en l'occurrence, en plus, c'est une approche pédagogique qu'on trouve stigmatisante et qui ne va absolument rien résoudre. C'est comme quand on nous a dit que Macron, à un moment cet été, voulait que les élèves les plus en difficulté reprennent l'école plus tôt. Mmh. Ça ressemble quand même vachement à une punition. Et donc, faire ce genre de mesures, ça serait encore une fois une catastrophe pour les élèves.
Et il y a la proposition aussi de raccourcir les vacances d'été.
Oui, et là encore une fois, en fait, pour nous, ça ressemble à des contre-feux. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on dit, on est les porte-voix des collègues, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les salles des profs, c'est nous, on veut moins d'élèves par classe et un taux d'encadrement renforcé. On veut des AED, on veut des vies scolaires complètes, on veut des personnels médico-sociaux, on veut plus d'enseignants et d'enseignantes, parce que quand on est absent ou absente, parce qu'on est malade, par exemple, on n'est quasiment jamais remplacé dans le premier degré. Ça, c'est la priorité absolue. Et donc, à chaque fois qu'on revendique cela, bah, y a d'autres contre-feux qui sont allumés, on nous propose des mesures qui ne seront pas à la hauteur des enjeux.
Et récemment, il y a aussi le Sénat qui a voté une loi pour interdire l'écriture inclusive, notamment dans les documents, se rapportant à l'enseignement, aux examens et aux concours, et aux thèses et aux mémoires. Pourquoi ce contrôle, selon vous, de l'écriture ? Est-ce que là aussi, c'est pour mettre la poudre aux yeux ?
Ouais, alors en fait, à la fois, c'est un contre-feu, parce que ça nous empêche de réfléchir à d'autres problèmes structurels importants, mais à la fois, je pense que ça trahit et ça témoigne aussi une vision très réactionnaire du gouvernement. On a été presque amusé de la dernière prise de parole d'Emmanuel Macron parce qu'il a dénoncé l'école inclusive en l'utilisant en fait pendant tout ce discours, en disant celles et ceux par exemple, c'est exactement de l'écriture ou du langage inclusif. Et puis en fait, on rejette vraiment en bloc l'argument qui est de dire oui, si on utilise l'écriture et le langage inclusif, ça va mettre en difficulté des élèves par exemple dyslexiques, choses comme ça. Nous, ça nous fait doucement rire dans la mesure où on a affaire à un gouvernement qui se fiche totalement de ces élèves-là depuis plusieurs années en ne mettant pas les moyens pour les accueillir convenablement dans les écoles. Donc on ne peut pas entendre non plus cet argument.
Comment vont les professeurs? Est-ce qu'on a des études, des chiffres pour montrer comment ils vont en ce moment?
Les professeurs ne vont pas bien. En fait, il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. En 10 ans, les demandes de démission ont été multipliées par 3 nationalement chez les enseignants et enseignantes. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de très grave sur notre société. Je pense que ça dit quelque chose parce que derrière ces gouvernants là, qui dirigent derrière des tableaux Excel ou des choses comme ça, nous, en fait, on gère de l'humain, quoi. On gère du sensible, on gère des personnes en face de nous qui, quand on arrive en classe, eh ben, là, aujourd'hui, la réalité, c'est de se dire je ne vais pas pouvoir faire mon travail correctement. Je ne vais pas pouvoir aider mes élèves correctement. Je vais devoir choisir qui je vais aider correctement. Et ça, c'est une violence vraiment inouïe. Et il y a beaucoup de collègues qui sont dépités par leurs conditions de travail et qui ne veulent plus être au service d'une institution si maltraitante.
Et cette année, on a également pu voir les syndicats de l'enseignement s'opposer à la réforme des retraites. Est-ce qu'on a une idée de l'impact que celle-ci aura sur le corps enseignant?
Oui, bien sûr. Bah, y a des enseignants et des enseignantes qui vont devoir, aujourd'hui, on le sait, travailler jusqu'à 67 ans parfois. C'est impensable pour la grande majorité des enseignants et enseignantes parce que en fait, au regard aujourd'hui de nos conditions de travail, il y a une fatigue, une charge mentale quotidienne qui est énorme. Et ça paraît vraiment ajouter de la souffrance à la souffrance. Ça a été très, très, très mal perçu, évidemment, dans la communauté enseignante.
Il y a aussi eu malheureusement des drames ces dernières années concernant Samuel Paty, Agnès Lassalle ou encore Dominique Bernard. Enseigner, c'est devenu dangereux parfois. Clément Brochard, comment sécuriser de nouveau les métiers de l'enseignement? Et est-ce que, suite à ces drames, le gouvernement a agi en ce sens?
En fait, je vais faire un pont avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que si on investissait déjà massivement dans l'école, si on réduisait les effectifs par classe, si on recrutait suffisamment d'AED, d'infirmiers, infirmières scolaires, de personnel de prévention, peut-être que chacun et chacune se sentirait déjà mieux à l'école, et que la sécurité et que les protocoles de sécurité seraient plus faciles à appliquer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, nous, on refuse de faire de l'école une sorte de bunker, une sorte de forteresse imprenable. On pense déjà que plutôt que de promettre des promesses irréalisables, peut-être déjà qu'il va falloir vérifier, mettre à jour, vérifier l'état, par exemple, de tout ce qui dysfonctionne déjà, en fait. Enfin, je parle de choses vraiment très, très concrètes, très basiques, de verrous, parfois, qui ne fonctionnent pas parce que l'état du bâti scolaire en France, c'est une catastrophe. Donc, déjà, vérifions tout cela, investissons massivement dans l'éducation nationale pour en faire un lieu safe pour chacun, chacune, et refusons ces logiques sécuritaires de bunkerisation.
Et vous le disiez, les remplacements des professeurs absents sont de plus en plus compliqués. On entend aussi souvent qu'il y a une pénurie de professeurs au recrutement. Est-ce que le problème n'est pas plutôt systémique maintenant?
En fait, évidemment, nous, l'hypothèse qu'on fait, on pense avoir raison, c'est que si on améliore les conditions de travail des enseignants et des enseignantes, si on diminue par exemple, encore une fois, les effectifs par classe, ça va attirer plus d'enseignants et d'enseignantes. Mais c'est quand même important de se dire qu'à Nantes, en tout cas, on est une académie qui attire. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup plus de candidats que de postes disponibles. C'est-à-dire que ça résulte vraiment d'un choix et d'une volonté politique de se dire OK, les candidats et candidates existent, mais on ne va pas en prendre de trop. Donc, on va continuer à gonfler les effectifs par classe et on sait qu'il n'y aura pas assez de remplaçants et de remplaçantes. C'est vraiment un choix et une volonté politique qui répond à des objectifs budgétaires.
On a aussi l'impression qu'on veut de plus en plus rallonger les journées des élèves. Pourtant, quand on regarde dans les différents systèmes à l'étranger, ceux qui sont toujours montrés en exemple, c'est des journées qui sont beaucoup plus courtes que ce qu'on peut avoir en France. Pourquoi est-ce qu'en France, ce modèle il ne s'impose pas? Et est-ce qu'on connaît l'impact de ces longues journées sur les élèves?
Alors, je n'ai pas d'études empiriques sur ça, mais nous, on mesure au quotidien que plus les journées sont longues pour les élèves, plus c'est compliqué d'être disponible tout simplement pour les apprentissages. Je pense que ça ne s'impose pas en France parce que c'est encore une fois une histoire de volonté politique. C'est une histoire de se donner les moyens de le faire correctement. Quand on avait essayé de réformer le rythme scolaire il y a quelques années, en fait, ça n'avait aussi pas fonctionné parce que les collectivités territoriales n'avaient pas les moyens de prendre en charge correctement les élèves ensuite. Et ça créait des disparités de territoire qui étaient immenses entre des communes plus riches que d'autres qui font que ça n'a pas pu fonctionner. Donc encore une fois, c'est de la volonté politique et de l'investissement qui doit être à la hauteur.
Et certains sujets aussi en classe semblent assez difficiles à aborder, notamment les questions religieuses. Vous êtes parfois en première face, face aux extrémistes justement religieux, mais de n'importe quelle religion, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà été confronté, vous, personnellement, à cette question? Et comment la communauté enseignante peut réussir à y répondre, surtout dans une société où tout est un peu cristallisé en ce moment?
Personnellement, en 10 ans de carrière, je n'ai jamais été confronté. Jamais. J'ai travaillé dans différents types de quartiers, je n'ai jamais été confronté. Ce que j'ai vu, par contre, de mes yeux, et ce qui nous inquiète de plus en plus, c'est la percée d'une certaine communauté d'extrême droite qui a de plus en plus le droit à la parole autour des questions éducatives. Vous avez peut-être entendu il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelques jours de ça, Stéphane Ravier, le député de Reconquête, qui a invité une association qui s'appelle les Parents Vigilants. C'est une association de parents qui s'est montée au moment de la candidature d'Éric Zemmour, qui est une association qui fait beaucoup de mal à l'école, qui essaye d'empêcher les programmes de parler d'éducation à la sexualité, qui essaye d'empêcher les programmes de parler de religion. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure au quotidien. Ça, c'est un extrémisme auquel on doit faire face parce que ces parents-là font beaucoup de bruit et font beaucoup de campagnes de harcèlement contre des enseignants et enseignantes. Donc, c'est un vrai danger contre lequel il va falloir se battre.
Et comment justement vous faites si vous avez déjà justement été confronté à l'extrême droite?
En fait, la première chose à faire déjà, c'est de retisser du lien et faire collectif, et faire front avec ses collègues par rapport à ça pour ne pas céder un pouce de terrain face à l'extrême droite. Et ensuite, j'ai envie d'inviter tous mes collègues évidemment à se regrouper dans des syndicats. C'est-à-dire que nous, une de nos actions aussi, c'est de promulguer une éducation émancipatrice, progressiste, dans un sens qui est évidemment à l'opposé des idéaux de l'extrême droite. Et pour ça, ça passe par s'organiser collectivement. Ça peut être mener des actions pour enlever des affiches qui ont été collées par l'extrême droite. Ça peut être écrire un tract pour dénoncer ce qui a été fait par certaines associations fascistes, des choses comme ça. Et je pense que c'est un combat qu'il faut vraiment, vraiment mener de toutes nos forces en ce moment.
Pour conclure, le bilan que l'on tire malheureusement est assez sombre. Est-ce qu'il existe quand même des motifs d'espoir concernant l'avenir de l'éducation en France ?
Les motifs d'espoir, c'est peut-être que même si la lutte ne s'est pas terminée comme on le souhaitait par rapport à la réforme des retraites de cette année, c'est qu'on s'est retrouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la rue. Ça a recréé des liens, ça a recréé du collectif, ça a recréé des solidarités, y compris dans la communauté enseignant-enseignante. Ça a fait qu'on continue à parler de comment réussir à se battre et à contrer ce rouleau compresseur libéral qui nous marche dessus un petit peu en ce moment. Donc, il se passe des choses. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans notre syndicat, en l'espace de 5 ans, on est 4 fois plus nombreux. Donc, c'est des choses qui nous montrent que les gens sont déterminés à ne pas se laisser faire. Et de toute façon, on sait que c'est un combat qu'on n'a pas le choix. Il faudra continuer à le mener.
Merci Clément Brochard. Je rappelle, vous êtes co-secrétaire de Sud Éducation 44 et professeur de CM1. Et on vous souhaite bonne chance et un bel avenir, on espère, à ces métiers de l'enseignement.
Merci beaucoup.
Nous remercions une nouvelle fois Clément Brochard pour sa participation à l'émission et à Seb pour ce magnifique montage. En l'écoutant, j'ai pleuré sur le poulet. Je t'avais dit que ça sortirait. Allez. Dans cette actualité anxiogène, on a besoin aussi d'un peu de légèreté. On vous propose donc un petit jeu pour respirer. Gabi,
le
c'est à
jeu
toi.
De Gabi.
Ouais, comme tu l'as dit, Quentin, je vais proposer un jeu auquel vous pourrez participer aussi depuis chez vous. Alors, c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Je vais vous donner des citations et vous allez devoir me dire si c'est un politique, un rappeur ou un philosophe qui a dit ça. Par exemple, hein, si je vous dis, c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, donc vous vous abstenez de choisir le chauffeur. C'est un politique et c'est Nicolas Sarkozy qui a dit ça.
Wow, ça fait réfléchir.
Donc, si vous avez le nom de la personne qui l'a dit, c'est un point en plus, même si on compte pas les points.
Ah bon ?
Il n'y a rien à gagner ?
Bon, une pente au bar, non ?
Eh ben allez, il y aura une pinte pour celui qui a fait le jeu aussi.
Ouais.
Alors, si je vous dis, on peut pas changer le passé, mais on peut ruiner le présent en s'inquiétant de l'avenir.
Je dirais un philosophe. Ça sonne.
Faut donner le nom ou pas ?
Bah, au moins si c'est philosophe.
Karl Marx.
Si t'as le nom en plus, masterclass.
Bah non, je l'ai pas en fait.
Karl Marx.
Non, je sais pas du tout.
C'est un auteur philosophe, Paulo Coelho.
Ah.
C'est dans l'alchimie, non?
Je saurais pas te dire.
Ah, ok, merci.
J'ai travaillé, mais pas non plus à ce point-là. Hein.
T'as pas lu toutes les œuvres.
J'ai un point du coup. Je le note.
Et il note vraiment en plus.
Bien sûr.
Si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même.
Ça, c'est un philosophe. Changer le monde. C'est pas Gandhi, non? Ah non.
MC Gandhi.
MC ouais. Gandhi.
Tu dis quoi, toi, Seb?
Oh putain, j'ai dit une bêtise.
Je dirais un rappeur, mais allez, on va dire c'est Jul.
Moi, j'aurais dit aussi un rappeur et Abdelmalik.
C'est Kerry James, donc c'était bien un rappeur.
Mais... Moi, j'ai dit Gandhi, mais il n'y a pas une phrase de Gandhi.
Je sais pas, je connais pas tout ce qu'il a dit. Il a peut-être dit un jour au repas.
Ok, à vérifier.
Peut-être un featuring. Hein.
Ouais. On sait pas.
Exact. Kerry James feat Gandhi.
Tout est possible. J'aime la musique alors.
La politique, c'est comme le tuning, ça sert à rien, mais ça en jette.
Oh, ce sont une raffarinade, non? Jean-Pierre Raffarin.
On a Jean-Pierre Raffarin.
Ouais, je dirais un politique aussi, mais je ne saurais pas dire lequel.
Ouais, je pense que c'est un politique aussi. Mais pas.
C'est bien un politique, c'est pas Jean-Pierre Raffarin, c'est Marine Le Pen.
Ah.
Oh, waouh. Wow.
En tout cas, ça me fait 3 points.
Elle voulait peut-être sûrement parler à ses électeurs du Nord, je ne sais
pourquoi
pas.
Pourquoi ça te fait 3 points? Parce on a tous dit politique.
Oui, mais en tout, ça
oui,
fait.
Oui, mais moi, ça me fait 3 points.
Ah ouais, okay.
Ça fait un
bah,
point.
Un point. Ah oui, okay. Je tiens à remarquer que
je vois ce qu'il
note. Hein. Mais il note des points que pour lui.
C'est faux. D'ailleurs, je t'avais mis un point, je me suis rendu compte qu'en fait, tu jouais pas.
Ouais, et Seb avait dit rappeur avant.
Ah, t'avais dit rappeur? Autant pour
il
moi.
Il fait x4 à côté de son nom, je pense qu'il y a une arme.
Ouais, ouais. Je pense qu'il va tous nous devoir une bière à la fin.
Non, il y a 3 pour moi, 2 pour Seb et 1 pour Yelena.
C'est pas parce que t'es condamné à l'échec que tu dois échouer.
Je dirais Kerry James.
Aucune idée.
Alors là, je sais pas.
C'est un politique libéral quelconque.
Il y a Yelena qui a carrément arrêté de jouer. Elle me regarde, elle est perdue. Et c'est pas Kerry James, mais c'est Oxmo Puccino.
Ah ouais, bien sûr. Mais bien sûr, je l'avais en fait.
Bah ouais.
C'est pour ça.
T'égalises, Seb.
J'enchaîne directement avec un lien. Je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché.
Ah bah Macron. Ah
ouais. C'est la question rapidité
c'est ça.
Du jeu.
On ne peut pas créer de l'emploi avec des lois de l'emploi.
Oh, elle est technique celle-là. On ne peut pas créer de l'emploi avec des lois de l'emploi.
Ouais.
Elle fait mal au cerveau, je ne sais même pas ce que ça veut dire.
Pour retourner la question peut-être. Enfin, retourner la phrase.
Ouais, ouais.
Ouais.
Je ne vois pas du tout. Ah bah, non, un politique, dans tous les cas, non?
Politique, philosophe.
Ça fait longtemps
un politique bourré, mais je ne sais pas lequel.
Et ben, c'est un politique, je ne sais pas s'il était bourré, mais c'est Lionel Jospin qui a notamment fait une loi sur l'emploi.
D'accord.
Le cher Lionel, on a presque oublié lui.
Oui,
il est à l'île de Ré.
C'est vrai ?
En retraite, ouais.
Merci pour cette information.
Il y avait eu.
Attention.
Juste avant la présidentielle. Non, mais juste avant la présidentielle, il y avait un collectif de 3 mecs qui avaient monté un collectif pour convaincre Jospin de se présenter à la présidentielle.
Ah ouais ?
Ils sont allés jusqu'à l'île de Ré justement le chercher. C'est pour ça que je sais ça.
Ah, ok. Merci pour cette information.
Moi, c'est parce que je regarde beaucoup trop les yeux.
Tu vois, tu voulais que je me taise, mais.
Non, mais très bien.
Si je vous dis, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.
Ah oh, putain, je sais.
Je dirais un rappeur. J'ai l'impression
de connaître.
Là aussi, mais sans savoir plus.
Moi, je. Oubliez-moi, je fais la réelle.
Il y a un cerveau qui a été posé par ici.
Je dirais un philosophe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de philosophe, donc au bout d'un moment, ma méta va se confirmer.
C'est bien un philosophe, c'est Albert Einstein.
Ah, j'égalise, 4-4.
Hmm.
J'ai pas compté les points de Macron parce que c'était trop facile.
Oui, c'était une petite boutade. Hein.
C'est fair play.
Qui a dit pour gouverner, il faut être élu, pour être élu, il faut être populaire, et pour être populaire, il faut mentir.
Bon, ça c'est en politique, Fillon. Non, Sarkozy.
J'ai pas d'idée.
Eh ben, on a deux points ici parce que c'est bien Sarkozy qui l'a dit.
Bravo.
Let's go. Je suis trop fort, putain. Je m'adore.
Qui a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière.
Booba. C'est la réponse random qui passe partout.
Vald.
Manuel Vald.
Oh, elle est bien celle-là.
Un point bonus.
J'en ajoute un point.
Merci.
Et c'est bien dans le rap game puisque c'est Diams qui a dit ça.
Un point chacun.
Qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'intelligence, c'est la chose la mieux partagée. Tout le monde pense en avoir assez puisque c'est avec cela qu'on pense.
Voilà, réponse facile sera un philosophe, mais je suis sûr qu'il y a un piège.
Un politique.
Et c'est François Hollande.
Waouh.
Ah, il sait faire des phrases, François Hollande.
Ah, il a dit mon ennemi, c'est la finance et moi, président.
Il y a 8-6. Voilà, je voulais signaler le score parce que ça me fait rire.
Mais quel beauf. Qui a dit la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter ?
En philosophe, Karl Marx. Seb.
Un rappeur.
Eh ben, c'est quelqu'un qu'on a déjà cité aujourd'hui. C'est Nicolas Sarkozy.
Oh là là.
Ah oui.
C'est son petit côté poétique. Je pense que c'est depuis qu'il est avec Carla Bruni.
Il est émouvant, ce Sarko, quand même. Il n'y a pas à dire.
Ah, et puis, puis je vais finir sur une petite dernière phrase, justement, un peu d'émotion. L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami.
Alors ça.
Céline Dion.
Je veux dire, un politique, il n'y a pas un politique qui de genre de droite qui s'est marié avec quelqu'un de gauche ou un truc du style, il aurait dit ça. Je réfléchis, mais j'ai pas. J'ai un politique, je dirais, du coup.
C'est un rappeur, c'est Dadju.
Ah, j'étais pas loin.
Très bien. Eh bien, j'ai gagné 8-6.
Non, 8-7.
8-7, pardon, 8-7.
Moi, je suis sûr, il y a Anguille Souroche.
Non, non, puisque je l'ai marqué le 7 en plus.
Ouais.
Bravo.
J'ai pas confiance en Quentin. Mais...
J'ai pas compté les points de Macron, il y aurait pu avoir plus. Je suis fair play. Merci Gabi en tout cas pour ce jeu. On se retrouve après une pause musicale pour une chronique de haute qualité. On écoute tout de suite Kamandja Ice d'Anna Wassim sur Prune 92 FM. C'était, j'ai perdu ma fiche.
C'était Kamanja, c'était Anna Wassim et le morceau Kamanja Ice. Oui, et oui, je suis toujours là. Et en fait, moi, je suis.
J'ai pas perdu ma fiche, j'étais au-dessus, je ne sais juste pas lire. Vous êtes toujours dans L'œil politique, votre émission politique tous les premiers lundis du mois sur Prune 92 FM. Après la légèreté, comme je le disais en intro, Gabi revient pour nous parler d'un sujet qui devrait tous nous inquiéter, le retour en force et décomplexé des fachos dans nos rues.
Critique, décalé, engagé. C'est le billet d'humeur de L'œil politique.
Il fut un temps pas si lointain où la France a résisté à l'avancée de l'extrême droite. Des millions de citoyens ont pris les rues en 2002 refusant d'accepter l'intolérance. Mais aujourd'hui, le tableau est bien différent. Nous assistons à une résurgence alarmante de cette peste brune. Des groupes fascistes défilent à nouveau dans nos villes, semant la terreur et la division. Paris, Rennes, Lyon, Annecy. Des noms qui résonnent maintenant avec l'écho sinistre de l'extrémisme. Aujourd'hui, nous devons agir, nous devons avoir le courage de lever le voile sur une vérité dérangeante. Nous sommes témoins d'une France où la démocratie flanche, où la justice n'est pas équitablement rendue. Les rues qui ont été le théâtre de luttes sociales justes sont aujourd'hui balayées par la répression brutale, orchestrée par ceux qui sont censés protéger et servir. Alors que la violence policière écrase les manifestations pacifiques, un autre fléau émerge de l'ombre impunément et sans entrave. Des groupuscules d'extrême droite propageant haine et division défilent dans nos rues sans que la police ne lève le petit doigt. Pourquoi cette inaction face à l'intolérance alors que de simples casserolades font se déplacer des unités de la BRAVEM? Pourquoi la police, quand ce sont des fachos qui défilent, semble-t-elle être sélective dans sa façon de gérer une manif? Pourquoi les défenseurs de l'égalité et de la justice sociale sont-ils traités comme des criminels tandis que des groupes haineux bénéficient d'une impunité choquante? Il n'y a qu'à regarder les votes de ceux qui font partie des forces de l'ordre pour se faire une petite idée. Cependant, il est crucial de ne pas détourner les yeux de la responsabilité qui incombe au pouvoir en place. Ce n'est pas un hasard si ces forces naissent et prospèrent, si bien qu'elles n'ont même plus besoin de se terrer dans l'ombre. C'est le résultat d'une politique qui a, au fil des années, ouvert la porte à l'intolérance et à la xénophobie. On pense entre autres à la nomination de celui qu'on ne doit pas traiter de sale violeur, Gérald Darmanin, au ministère de l'Intérieur. Les rues sont aujourd'hui le reflet d'une France fracturée, et c'est le gouvernement actuel qui doit en rendre des comptes. Les manifestations sauvages que nous observons ne sont pas seulement des symptômes, mais des conséquences directes d'une complaisance politique. Les dirigeants qui auraient dû être les remparts contre l'intolérance ont trop souvent plié devant elle, craignant peut-être la perte de vote ou répondant aux caprices de groupes d'influence douteux. Il est crucial de comprendre que cette menace ne se limite pas à quelques groupes d'extrémistes. Elle est en train de s'infiltrer dans les fondements même de notre démocratie. La peur et la division ne sont pas simplement des résultats malheureux, ce sont des armes politiques, des moyens pour certains de conserver et d'accroître leur pouvoir. L'inaction du pouvoir face à ces ratonnades, cette tolérance envers la haine, est un signal alarmant que la France bascule de plus en plus dans un fascisme rampant. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester passifs face à cette menace. Nous devons regarder cette réalité en face, sans œillères ni complaisance. Alors que nous sommes témoins de ces événements, nous devons exiger des comptes. Le pouvoir actuel doit être tenu responsable de son rôle dans la montée de l'extrémisme. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les signaux d'alarme et de permettre à ces forces de gagner du terrain. Nous ne pouvons plus permettre que la France se transforme en une terre fertile pour le fascisme. Nous devons nous unir, élever nos voix et résister à cette vague brune qui menace de nous submerger. Alors comme je le dis depuis 10 ans sur cette antenne, la solution pour se faire entendre sera par la rue. Ne laissons pas ce terrain aux fachos.
Merci Gabi pour ce billet d'humeur. Je rajouterai que les médias aussi leur part de responsabilité quand ils parlent d'ultra-droite et non d'extrême droite.
Oui.
Et bien, place désormais à la dernière musique de l'émission, Mistakes de Ronny Caspi.
It's never seemed so pick up my...
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans L'œil politique, votre émission politique tous les premiers lundis du mois de 19h à 20h. Nous arriverons bientôt à la fin de l'émission. Pour terminer de manière plus légère, je vous propose de faire part de vos recommandations culturelles du mois. Une série, une musique, un documentaire, une pièce de théâtre. Qui se lance ? Seb, je crois que tu avais deux recos.
Ouais, alors principalement... Je voulais vous parler d'une soirée qui n'est pas une soirée, mais qui s'appelle une boom, qui aura lieu une après-midi aux ateliers Magellan le 16 décembre. Donc, qui s'appelle la Bim Bada Boom. Tout est dit dans le nom. Donc, le but, c'est de faire une collecte de fonds solidaires pour aider des peuples opprimés. Donc, on pense directement, évidemment, à la situation catastrophique en Palestine. Et donc, durant cet après-midi, vous pourrez écouter différents DJ sets. Vous aurez aussi une restauration et buvette. Donc, ça se passe aux ateliers Magellan de 14h à 20h, le 16 décembre 2023. Et malgré le nom de Boom, je pense que ça va pas mal déménager, comme disent les jeunes.
Gravwarda.
La Gravwarda. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est à prix libre, si je ne l'ai pas déjà dit.
Gabi.
Moi, étant grand consommateur de jeux vidéo et étant actuellement blessé, du coup je n'ai qu'une main, j'ai découvert la joie de jouer à un jeu qui s'appelle Baldur's Gate, qui est sorti en août dernier, donc qui n'est pas non plus très récent, mais c'est un jeu de rôle dans l'univers de Donjons et Dragons. Et si le jeu de rôle vous intéresse, le jeu de rôle papier, et que vous n'avez pas assez de connaissances qui... y jouent ou qui veulent y jouer, c'est un bon moyen de mettre un pied dans cet univers-là. Donc c'est Baldur's Gate et c'est le troisième opus de cette saga.
Très bien, c'est noté. Moi, j'ai trois petites recommandations. Déjà, une pièce de théâtre, trois pièces de théâtre de la compagnie Les Maladroits, Frères, Camarades et Joueurs, que j'ai eu l'occasion de voir au théâtre universitaire il y a deux semaines, qui sont des pièces de théâtre, une sur le conflit israélo-palestinien, une sur la guerre civile en Espagne et la dernière sur mai 68 à Nantes, c'est du théâtre d'objets, c'est très cool. Ensuite, en musique, le premier album de Bandi Bandi, 11h11, qui est sorti en octobre. J'ai sûrement dû mettre ce groupe une ou deux fois dans le conducteur. Et un documentaire que j'ai commencé hier, La Tribu et le Gourou Gaia Land sur Arte, sur une secte écologiste qui ont fait, ils ont fait le tour du monde, il y a eu des morts, etc. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça sur le site d'Arte. Voilà. Et Yelena, est-ce que tu as une recommandation ? Je crois en toi, Yelena.
Oui. un petit livre. Ça fait depuis un moment que c'est sorti, mais voilà, j'avais envie d'en parler. C'est Mon corps de ferme d'Aurélie Olivier. J'espère ne pas me tromper dans le nom de l'auteur. Voilà, qui parle à la fois d'être une femme et à la fois d'être une femme agricultrice dans le milieu rural. Voilà, donc je vous conseille, c'est un recueil de poèmes et qui est édité aux Éditions du Commun, une maison d'édition indépendante à Rennes.
Et si, une petite dernière reco, n'hésitez pas à aller voir L'heure de trop, la parodie de Pascal Pro par Malik Bentala sur YouTube.
Évidemment.
C'est parfait.
Eh bien, merci à vous trois pour ces recommandations culturelles. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés en ce début de mois de décembre. J'espère que l'émission vous aura plu. Merci Yelena, Sab et Gabi pour votre présence ce soir et merci à Clément Brochard d'avoir répondu à notre invitation. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, le 1er janvier pour être exact. Nous vous préparons évidemment une émission spéciale en ce premier jour de 2024. Rendez-vous donc le 1er janvier 2024 de 19h à 20h sur Prune 92FM. Tout de suite, c'est Passage en Force, c'est l'émission basket de Prune. Et si vous avez pris l'émission en cours de route ou si vous voulez la réécouter, vous pouvez la retrouver en podcast sur le www.prune.net. D'ici là, portez-vous bien et bonne fin d'année 2023.
C'était L'Œil Politique. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.